Chapitre 13. Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieu fait de son mieux. Il est injuste de prononcer un jugement sans avoir examiné la loi tout entière. Peu d'élèves dans leur scolarité échappent à Candide de Voltaire, classique parmi les classiques. Si vous n'en avez pas tout oublié, vous vous souviendrez peut-être du personnage de Pangloss, pédant professeur de métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie, déclarant en toute occasion que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles, et aux yeux de qui, par conséquent et par raison suffisante, les 30 000 morts du tremblement de terre de Lisbonne sont, je cite, « ce qu'il y a de mieux, car tout est bien ». N'est-ce pas en effet de la nigologie de premier ordre ? Il se trouve que Pangloss est une caricature pas très subtile du philosophe allemand Gottfried Leibniz. Lorsque ce doux nom évoque un souvenir aux lycéens qu'il entend prononcer en cours de philosophie, c'est presque toujours en lien avec ce Pangloss. Et c'est bien dommage, car Leibniz est loin d'être le nigologue que Voltaire voulait tourner en ridicule. Soit dit en passant, les lycéens sont familiers au moins des travaux mathématiques de Leibniz, puisque celui-ci est l'inventeur du calcul infinitésimal et de sa notation encore en usage aujourd'hui. Chaque fois que vous vous amusez à calculer une dérivée ou que vous tracez l'élégant S long d'une intégrale, songez que c'est à Leibniz que vous devez tant de belles choses. La paternité du calcul infinitésimal est en fait disputée entre Newton et Leibniz. Il semble que l'un et l'autre l'aient découvert à la même époque et indépendamment. Mais la notation moderne nous vient de Leibniz, qui est aussi à l'origine de plusieurs autres notations encore en usage aujourd'hui, notamment le point médian pour noter la multiplication et les deux points pour noter la division. Leibniz avait une conscience aiguë de l'exigence d'un langage bien construit pour guider le raisonnement. Ce n'est d'ailleurs pas le seul philosophe que collégiens et lycéens fréquentent sans le savoir en cours de mathématiques et de physique. Descartes nous a aussi laissé les lois de la réfraction et les inépuisables joies de la géométrie analytique. Leibniz n'était donc pas seulement philosophe, c'était aussi l'un des plus importants mathématiciens de son temps et le logicien le plus fécond depuis Aristote. Par ailleurs, juriste, philologue, historien, diplomate, précurseur en bien des domaines, notamment en linguistique et en psychologie, on le décrit souvent comme un génie universel, ce qui est assez flatteur. Que pouvait donc lui reprocher Voltaire ? Son optimisme. L'optimisme est d'ailleurs le sous-titre de Candide. À travers le personnage de Pangloss, Voltaire reproche en effet à Leibniz de soutenir que « tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles » ou encore que « tout est bien », ce qui, nous pouvons l'admettre, semble démesurément optimiste au regard de l'état du monde. Est-ce vraiment fidèle à la pensée de Leibniz ? Pas tout à fait. Tout ne va pas bien, non, tout n'est pas au mieux. En revanche, il est vrai que Leibniz considérait que notre monde, avec ses catastrophes, ses génocides et ses autres désagréments, n'en est pas moins le meilleur des mondes possibles. C'est une thèse pour le moins surprenante. Vous pouvez vous en moquer sans la comprendre, comme Voltaire, ou bien tâcher de l'examiner. Qu'est-ce donc qui justifie aux yeux de Leibniz une thèse aussi radicalement optimiste ? Et que signifie-t-elle exactement ? Le raisonnement de Leibniz part en quelque sorte d'une seule prémisse : Dieu a créé le monde. Cette prémisse, pour discutable qu'elle nous semble aujourd'hui, était admise par la plupart des philosophes de ce temps où l'athéisme était plutôt l'exception. Leibniz et la plupart des philosophes théistes auraient considéré par ailleurs que cette thèse est justifiable par diverses preuves de l'existence de Dieu, mais laissons cela de côté ici. Voltaire lui-même, qui reconnaissait dans les cabales « l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger », n'aurait pas eu l'audace de contredire Leibniz sur ce point. Par contre, que notre monde soit le meilleur des mondes possibles, voilà qui semblait plus difficile à avaler. Comment Leibniz pouvait-il tirer cette conséquence apparemment inacceptable d'un principe si largement accepté en son temps ? Il faut commencer par préciser ce que l'on entend par Dieu. L'argument de Leibniz ne suppose rien de plus que trois attributs tout à fait classiques de la divinité : toute puissance, omniscience et bénévolence. Ce mot ne s'utilise presque plus en français, mais il est bien utile pour signifier littéralement « qui veut le bien ». Les mots bon et bienveillant ne font pas entendre cette référence à la volonté. Autrement dit, Dieu peut tout, sait tout et veut bien faire. Si vous admettez qu'un être ayant ses attributs a créé le monde, ou si vous admettez à plus forte raison que Dieu est absolument parfait, ce qui semble devoir impliquer notamment ces trois attributs, alors il sera difficile de ne pas conclure que notre monde est le meilleur monde possible. Voyons pourquoi. Tout d'abord, Dieu est tout-puissant, ou omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qui est logiquement possible. Ce concept posait des problèmes logiques amusants aux théologiens, dont le plus célèbre est sans doute le suivant. Dieu peut-il créer une pierre si lourde que lui-même serait incapable de la soulever ? S'il le peut et le fait, alors il ne sera plus tout-puissant, puisqu'il ne pourra pas soulever la pierre. Et s'il ne peut pas la créer, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. La solution apportée à ce genre de difficulté consiste le plus souvent à montrer que ce qui est demandé relève d'une absurdité logique, la toute-puissance divine ne s'étendant qu'à ce qui est au moins logiquement possible. À l'impossible logique, nul n'est tenu, pas même Dieu. Dieu, donc, a notamment pu créer notre monde, mais il aurait pu aussi en créer un autre tout à fait différent. Les mondes possibles dont parle Leibniz sont donc des mondes que Dieu aurait pu créer au lieu du nôtre. Ensuite, Dieu est omniscient. Il a connaissance de toutes choses, du premier instant jusqu'au dernier. La prescience divine a toujours posé des difficultés pour penser la liberté. En quel sens sommes-nous libres alors que Dieu sait déjà quel usage nous ferons de notre liberté ? Laissons les théologiens se débrouiller avec ce problème. Il est quoi qu'il en soit tout à fait convenu d'admettre que Dieu est omniscient, et il s'ensuit qu'il a créé notre monde en sachant à l'avance tout ce qu'il contiendrait, et donc en sachant, parmi bien d'autres choses, que le grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755 tuerait plus de 30 000 personnes. Ajoutons à cela que Dieu ne connaît pas seulement le monde actuel, il connaît aussi, dans le même détail, tous les mondes qu'il aurait pu créer, c'est-à-dire les autres mondes possibles. La question se pose donc de savoir pourquoi sa volonté s'est-elle portée sur notre monde plutôt qu'un autre. Pour répondre à cette question, il faut parler du troisième attribut, la bénévolence. Dieu est de bonne volonté, c'est la moindre des choses. Il y a en rapport à cela un problème classique appelé dilemme d'Euthyphron, en référence à un dialogue de Platon du même nom. Est-ce parce que Dieu veut une chose que cette chose est bonne, ou bien est-ce parce qu'elle est bonne que Dieu la veut ? Dans le premier cas, ce qui est bon ou mauvais semblerait relever d'un étrange arbitraire divin. Dans le second cas, qui est l'option la plus suivie, la distinction entre le bien et le mal ne dépend pas de Dieu qui ne fait somme toute qu'obéir à une loi morale supérieure. Un point important dans la pensée de Leibniz est que vouloir le bien revient à vouloir le meilleur parmi les options que l'on peut réaliser. C'est la recherche d'un optimal, d'un maximum de bien. Une fois cela admis, examinons le cas de la création du monde. Étant omniscient, Dieu connaît dans le moindre détail tous les mondes possibles. Étant tout-puissant, il peut créer n'importe lequel de ces mondes. Et enfin, par bénévolence, il fera le meilleur choix possible, c'est-à-dire qu'il créera le meilleur de ces mondes. Voilà pourquoi, s'il y a un être tout-puissant, omniscient et bénévolent qui a créé le monde où nous sommes, alors nous sommes dans le meilleur monde possible. On peut mener le même raisonnement par l'absurde. Supposons qu'un monde meilleur que le nôtre est logiquement possible. Il faut alors se demander, pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé ce monde meilleur ? Est-ce parce qu'il ne le pouvait pas ? Cela revient à nier sa toute-puissance. Si l'on admet qu'il pouvait créer ce monde, ne l'a-t-il pas créé parce qu'il ne savait pas que ce monde serait meilleur que le nôtre ? Cela reviendrait à nier son omniscience. Et enfin, si l'on admet qu'il savait que ce monde est meilleur et qu'il pouvait le créer, la seule explication restante serait qu'il n'a pas voulu le créer, ce qui revient à nier sa bénévolence. L'argument de Leibniz est d'une logique imparable. Si la prémisse concernant Dieu est acceptée, et de fait elle l'était par la plupart de ses contemporains et par beaucoup des nôtres encore, il semble bien qu'il en découle nécessairement cette conclusion pour le moins dérangeante que notre monde est le meilleur monde possible. il y a tout de même deux points qui peuvent être remis en cause. Le philosophe Alvin Plantinga s'est efforcé de montrer qu'il y aurait des mondes logiquement possibles que Dieu ne pourrait pas faire sans contradiction et sans pourtant que cela limite sa toute-puissance. L'erreur de Leibniz aurait été de confondre monde possible et monde créable. Nous sommes dans le meilleur monde créable, pas le meilleur monde possible. L'autre objection concerne l'idée qu'il y ait une série infinie de mondes possibles ou créables de valeurs morales croissantes. Il n'y aurait pas plus de sens de créer le meilleur de ces mondes que de trouver le plus grand nombre entier. Mais il semble surtout que cette idée remette en cause la possibilité pour Dieu d'être bénévolent en créant le monde, puisqu'il ne pourrait pas faire autrement que créer un monde tout en sachant que ce n'est pas le meilleur possible ou créable, ce qui semble contraire à l'idée de bénévolence ou de perfection morale. Mais passons sur ces objections, et pour la suite, admettons l'argument de Leibniz : si Dieu a créé le monde, alors ce monde est le meilleur possible. Comment alors expliquer le mal que nous y constatons chaque jour? Comment expliquer les 30 000 morts du tremblement de terre de Lisbonne, les 100 millions de morts de la grippe espagnole ou l'indigestion que j'ai faite hier soir? J'ignorais ce qui m'attendait en commandant les huîtres au jardin d'Épicure, mais Dieu le savait, lui. Que n'a-t-il créé un monde où j'aurais passé une autre commande et une meilleure nuit? C'est le fameux problème du mal. Si Dieu est bon et a créé le monde, comment expliquer le mal? Ce type de question est tout à fait classique en théologie, mais la spécificité de l'approche de Leibniz est de toujours envisager ces questions au niveau de la totalité de ce qui existe dans la recherche d'un maximum de bien. La perfection divine aura donc pour conséquence non pas qu'aucun mal n'existe dans le monde, mais seulement que notre monde, cette totalité dont nous ne voyons qu'un infime fragment, est le meilleur possible, c'est-à-dire qu'on y trouve le maximum de bien possible. Et pour Leibniz, ce maximum de bien ne pourrait être obtenu sans un minimum de mal. Il semble assez facile d'objecter à cela que je peux imaginer un monde possible où je n'aurais pas eu d'indigestion hier soir, et rien que cela suffirait à en faire un monde meilleur que le monde actuel. À la limite, nous pouvons même imaginer un monde qui ne contiendrait aucune forme de mal, quel qu'il soit, où les hommes seraient des anges. Un tel monde serait sans aucun doute meilleur que le nôtre. Pour comprendre pourquoi il n'en est pas ainsi aux yeux de Leibniz, il faut préciser ce que Leibniz comprend par ce bien que Dieu cherche à maximiser. Leibniz en fait une lecture beaucoup moins morale et beaucoup plus métaphysique que l'on pourrait se le figurer de prime abord. La notion de bien est pour lui liée avant tout à celle d'existence, de sorte que créer le meilleur monde possible revient à amener à l'existence un maximum de choses possibles à partir d'un minimum de principes. Autrement dit, il s'agit de maximiser la richesse, la fécondité, la complexité du monde. Ce point est clairement exprimé par exemple dans ce passage d'un opuscule de Leibniz intitulé « Sur l'origine radicale des choses ». Leibniz écrit « Parmi les combinaisons infinies des choses possibles et des séries possibles, la seule à exister vraiment est celle par laquelle la plus grande quantité d'essence ou de possibilités est amenée à exister, de telle sorte que l'effet maximal soit fourni au prix, pour ainsi dire, d'un effort minimal. Se réalise le monde qui entraîne la production maximale des possibles. » Leibniz sur l'origine radicale des choses. Il faut noter que l'idée sous-jacente, celle de lier le bien à l'existence, est en fait très consensuelle à l'époque. Il était en effet courant de considérer que le mal n'a pas d'existence positive, qu'il réside toujours dans l'absence ou le défaut. Un monde qui ne contiendrait aucune forme de mal serait sans doute bien plus pauvre et inintéressant que le nôtre, comme une musique qui ne contiendrait que des accords parfaits. Ce n'est assurément pas la meilleure musique possible. De façon inattendue, on peut établir un certain rapport entre cette pensée de Leibniz et la réflexion contemporaine sur l'ajustement fin, fine-tuning, de l'univers. L'idée est la suivante. Il y a des constantes fondamentales de la physique dont la valeur semble en quelque sorte arbitraire, au sens où l'on ne fait que les constater et les mesurer. Or, il apparaît que, si elles avaient été dans des rapports ne serait-ce que très légèrement différents, aucune forme de vie n'aurait jamais pu exister. L'univers doit être en expansion suffisamment rapide pour ne pas s'effondrer immédiatement sur lui-même, mais à l'inverse, l'expansion ne doit pas être trop forte, sans quoi les étoiles et les galaxies ne pourront pas se former, ce qui rendrait l'univers tout aussi inintéressant. Aussi est-on tenté de penser que les valeurs de ces constantes ont été réglées de façon fine pour produire l'univers le plus riche et complexe possible. En tout cas, plus riche et complexe que la quasi-totalité des autres univers que l'on pourrait baser sur les mêmes lois physiques, mais avec d'autres constantes. Cette idée ne déplairait pas à Leibniz, puisqu'il semble alors que son Dieu pourrait expliquer l'origine de l'optimisation de la complexité par les valeurs des constantes fondamentales de la physique. Au moins, du point de vue de ces constantes, il est raisonnable de dire que nous vivons, sinon dans le meilleur univers possible, en tout cas, dans l'un des très rares univers possibles d'après les lois de la physique qui traverse une phase d'une si grande complexité. Permettez-moi à cette occasion une petite digression sur cette notion de complexité. S'il y a chez Leibniz beaucoup de réflexions sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la complexité, c'était encore une notion très mal cernée à son époque. Il faut en fait attendre les années 1960 et les travaux de Kolmogorov, Solomonov et Chaitin sur la théorie algorithmique de l'information pour que cette notion commence à être mieux comprise et définie. On distingue aujourd'hui plusieurs types de complexité, principalement la complexité de Kolmogorov et la profondeur logique de Bennett. La complexité de Kolmogorov d'un ensemble de données correspond, en gros, à la longueur du plus petit algorithme permettant de produire ces données. Ainsi, une suite d'un milliard de zéros a une complexité de Kolmogorov très faible puisqu'elle peut être produite par un algorithme très simple, un algorithme aussi simple que écrire un milliard de zéros. Par contre, une suite d'un milliard de 1 et de 0 totalement aléatoire a une complexité de Kolmogorov très grande puisqu'il n'y a pas d'autre choix pour la décrire exactement que de spécifier une à une chacune des valeurs de la suite. L'algorithme le plus court sera donc aussi long que les données décrites. Il y a pourtant un sens selon lequel l'aléatoire n'est pas vraiment complexe, et c'est ce sens que tâche de capturer la notion de profondeur logique de Bennett. Cette profondeur correspond au nombre d'étapes de calcul nécessaires pour produire les données à partir du plus petit algorithme qui permette de les décrire. Une suite aléatoire de 1 et de 0 a donc une profondeur logique très faible, puisque l'algorithme le plus court qu'il a décrit doit spécifier une à une les valeurs de cette suite, et il n'y aura presque aucune étape de calcul nécessaire ensuite pour produire la suite à partir de cet algorithme. L'aléatoire est complexe au sens de Kolmogorov, mais n'est pas profond au sens de Bennett. Les données ayant la plus grande profondeur logique sont celles qui peuvent être obtenues à partir d'un algorithme assez simple, mais qui nécessite un très long temps de calcul. De bons exemples de cela sont donnés par les automates cellulaires comme le jeu de la vie de Conway. Les règles en sont très simples et peuvent produire, au bout d'un grand nombre d'étapes de calcul, des configurations extrêmement riches et variées. Et il semble raisonnable de croire que notre univers, de même, est aujourd'hui dans une configuration extraordinairement complexe, alors que les conditions initiales et les lois fondamentales qui le régissent sont relativement simples. Pour en revenir à Leibniz, la complexité dont il veut parler semble se rapprocher de la profondeur logique de Bennett. Il insiste en effet régulièrement sur le fait qu'il faut considérer la richesse et la diversité du monde par rapport à la simplicité des principes qui en sont à l'origine. Un monde qui ne serait qu'une suite d'événements aléatoires n'aurait donc pas cette diversité. Bien qu'anachronique, il me semble correct de dire qu'aux yeux de Leibniz, le meilleur monde possible est celui qui a la plus grande profondeur logique de Bennett. Il va de soi que cet apparent ajustement de l'univers ne prouve pas l'existence de Dieu, cela pourrait être expliqué autrement, mais cela montre que la conclusion de l'argument de Leibniz est moins absurde que Voltaire pouvait le penser. Le Dieu des philosophes n'est souvent qu'une vague cause première du monde, bien éloignée du Dieu personnel des religions, en ceci qu'il ne semble pas devoir s'intéresser au sort particulier de chaque être humain. Le dieu leibnizien, maximisateur de la production de possibles, aussi bien que le dieu fin ajusteur des constantes fondamentales, en est un bel exemple. Dans son calcul du meilleur monde, mon indigestion d'hier est une quantité aussi négligeable que la pandémie de grippe espagnole. Ces imperfections ponctuelles font partie d'un tout qui, si Leibniz a raison, reste meilleur que n'importe quel autre tout possible. Nous nous en rendrions compte nous-mêmes si seulement nous pouvions voir ce monde dans son entièreté ainsi que les autres mondes possibles. Malheureusement, nous sommes limités et ne le pouvons pas. La fin des essais de Théodicée de Leibniz présente le récit imaginaire d'un homme transporté par Athéna dans la pyramide des mondes possibles. Il y peut à loisir, dans chaque pièce, observer un monde possible dans son entier et constater l'amélioration des différents mondes à mesure qu'il monte les étages de la pyramide, jusqu'au monde qui en constitue le sommet, le meilleur monde possible, lequel est précisément le monde actuel dont il vient. Mais Leibniz n'est pas Athéna, et nous ne pouvons qu'imaginer cette pyramide et ses mondes, ce qui est bien moins convaincant. S'il y a un optimisme de Leibniz, ce n'est jamais qu'un optimisme cosmique. Il n'a de sens qu'à l'échelle du monde ou de l'univers tout entier, passé, présent et futur. Cela n'exclut donc pas un certain pessimisme local. Leibniz ne nie jamais qu'il y ait du mal. Nulle part il n'est écrit, ni même suggéré, que « tout est bien ». Et si Voltaire avait bien lu et compris l'auteur qu'il voulait critiquer, il n'aurait pas dû mettre ces mots dans la bouche de Pangloss. Ce que Leibniz nie, c'est l'idée que tel ou tel mal particulier que nous constatons pourrait être corrigé dans un monde meilleur. Si Dieu a créé ce monde et non un autre, c'est que les mondes possibles où le tremblement de terre de Lisbonne n'a pas eu lieu sont tous, considérés en leur entier, des mondes moins bons, c'est-à-dire moins riches, moins complexes que le nôtre. Et s'il est difficile de le comprendre, c'est d'une part que nous n'apercevons jamais qu'une insignifiante partie de notre monde, et d'autre part qu'il nous est encore plus difficile de connaître les autres mondes possibles auxquels il faudrait le comparer pour pouvoir juger qu'il n'est pas le meilleur. Dans ces conditions, n'est-il pas en effet bien présomptueux de coller, comme Voltaire, un peu mieux faire à l'œuvre de Dieu ? Bien sûr, rien ne vous empêche de noter l'élève Dieu absent, c'est ce que je ferai pour ma part, mais je raisonnais ici selon le point de vue de Leibniz et de beaucoup d'autres pour qui Dieu est bien là et le monde est son œuvre. Si Dieu nous rend une dissertation dont nous ne pouvons lire que la moitié d'une ligne, quand bien même celle-ci nous semblerait assez médiocre, il me semblerait fort mal avisé de juger de ce qu'elle mérite sur cette seule base. En admettant par ailleurs que cet élève sait tout, peut tout et veut bien faire, c'est le propre de Dieu, il faut plutôt estimer a priori que c'est la meilleure dissertation possible et lui donner la note parfaite de 20 sur 20, excellent, ne relâchez pas vos efforts au septième jour. Ce point est joliment développé dans un autre passage de « Sur l'origine radicale des choses ». Leibniz écrit « Mais, dira-t-on, c'est le contraire dont nous faisons l'expérience dans le monde, car, le plus souvent, le pire revient aux meilleurs hommes. Les innocents, bêtes ou hommes, sont frappés, parfois tués sous les tortures. En somme, envisagé surtout sous l'aspect du gouvernement du genre humain, le monde apparaît plutôt comme un chaos plein de désordre que comme l'effet de l'organisation d'une sagesse suprême. » À la vérité, il est injuste de prononcer un jugement sans avoir examiné la loi tout entière, comme l'affirment les juristes. Nous ne connaissons qu'une infime partie de l'éternité qui doit s'étendre à l'infini. Les quelques milliers d'années dont l'histoire nous a fait la relation sont bien dérisoires. Et cependant, malgré cette expérience minime, nous n'hésitons pas à juger de l'immensité et de l'éternité comme des hommes emprisonnés ou, si l'on préfère, nés et élevés dans les salines souterraines des Sarmates qui croiraient qu'il n'existe aucune autre source lumineuse dans le monde que cette méchante torche qui suffit à peine à diriger leurs pas. Imaginons une très belle peinture. Couvrons-la entièrement à l'exception d'une toute petite partie. Qui verra-t-on, même de très près ? Ou même en s'approchant davantage. Rien de plus qu'une accumulation confuse de couleurs placées au hasard, sans art. Et cependant, après avoir enlevé ce qui le couvrait, on observera le tableau tout entier dans la perspective qui convient. On s'apercevra que ce qui, de prime abord, semblait barbouillé sur la toile, était le résultat du très grand talent de l'auteur de l'œuvre. La perception des yeux en peinture est du même ordre que celle des oreilles en musique. D'éminents maîtres dans l'art de la composition mêlent très souvent des sons inharmonieux aux sons harmonieux afin de surprendre l'auditeur et, pour ainsi dire, de piquer son attention. Pour que l'auditeur, comme inquiet de la suite, ressente au moment où, peu après, tout a été remis dans l'ordre, une joie d'autant plus grande. C'est pour le même motif qu'on se lasse de se nourrir continuellement des mets qui flattent le goût. Les saveurs âcres aigres et même amères, doivent avoir leur place afin d'exciter le goût. Qui n'a pas goûté à l'amer n'a pas mérité le doux et même ne saura pas l'apprécier. Telle est la loi même du plaisir. Il ne se maintient pas toujours égal parce que cela nous engendre le dégoût, nous engourdit, au lieu de nous rendre heureux. Leibniz sur l'origine radicale des choses. Peut-on vraiment considérer la pandémie de grippe espagnole ou le génocide rwandais comme une dissonance passagère dans un tout harmonieux, comme une petite saveur âcre sans laquelle on se lasserait d'un bonheur sucré? C'est pour le moins difficile à concevoir. Ces images musicales, picturales ou gustatives, très fréquentes sous la plume de Leibniz, ont bien quelque chose de profondément choquant, comme s'il excusait les pires monstruosités pour l'effet esthétique que l'on en retire en considérant les choses d'assez loin. Cette approche n'est peut-être pas la plus adéquate, ni même la plus fidèle à l'idée leibnizienne, même si de fait c'est celle que Leibniz utilise le plus souvent. Il en est une autre qu'il n'évoque qu'à une seule reprise à ma connaissance et que je trouve bien plus subtile et intéressante. Elle est tirée d'un domaine plus abstrait, la géométrie. Leibniz fait remarquer que la diagonale d'une figure même aussi simple et harmonieuse qu'un carré a quelque chose d'imparfait. Aucun nombre rationnel ne peut exprimer la longueur de cette diagonale par rapport au côté. En effet, si le côté vaut 1, la diagonale vaut racine de 2, un nombre irrationnel. Leibniz en son temps parlait de nombre sourd, ce qui est assez joli. Les pythagoriciens frémissaient devant cette monstruosité mathématique. L'école pythagoricienne fondée par Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ était une organisation à la fois scientifique et religieuse, entretenant un rapport mystique au nombre et à la géométrie. Hippas de Métaponte aurait été le premier pythagoricien à divulguer l'incommensurabilité de la diagonale du carré et aurait été pour cela noyé par ses compagnons ou se serait suicidé selon les versions. On ne plaisante pas avec les nombres. Imaginez maintenant que nous voulions placer des points sur un plan de façon à obtenir, en les reliant, des formes géométriques aussi diverses que possible. S'il fallait faire en sorte que toutes les grandeurs que déterminent ces points restent commensurables les unes aux autres, nous serions en fait immédiatement bloqués. La question est d'ailleurs assez amusante. Quel est le nombre maximal de points que l'on peut placer dans le plan de sorte que toutes les aires et distances entre ces points soient exprimées par des nombres rationnels, et en supposant qu'ils ne soient pas tous alignés, bien sûr. Vous verrez que cette contrainte ne permet pas grand-chose. Ainsi faut-il permettre cette petite imperfection de l'incommensurabilité pour maximiser la richesse et la complexité des formes. Et il en irait de même pour le mal en général aux yeux de Leibniz. Si l'on veut une plus grande richesse globale, il faut permettre des imperfections locales. L'argument sur la diagonale du carré est développé par Leibniz dans le Dialogue effectif sur la liberté de l'homme et l'origine du mal, un texte bref que l'on peut lire dans le recueil Système nouveau de la nature et autres textes, Flammarion, collection GF, 1994. Leibniz peut souvent donner l'impression qu'il se fait l'avocat de Dieu, tâche au moins aussi difficile que se faire l'avocat du diable, puisque si Dieu a tout créé, il doit aussi répondre du diable. La métaphore judiciaire est d'ailleurs fréquente chez Leibniz, qui commença par étudier le droit. L'une de ses œuvres principales s'intitule « Essai de Théodicée », ce néologisme signifiant littéralement « justice de Dieu », où il s'agit surtout de disculper Dieu du mal dont on l'accuse. Le plaidoyer de Leibniz tient donc essentiellement à ceci. Dieu veut le meilleur monde possible, et celui-ci contient une certaine part de mal qu'il ne veut pas en lui-même, mais qu'il permet en tant que partie de ce meilleur monde. Pour filer la métaphore géométrique, on pourrait dire que Dieu ne veut pas ces scandaleuses longueurs incommensurables, mais il faut bien tolérer qu'il y en ait dès lors que l'on veut placer quelques points sur un plan. Que ce soit par l'image du détail de la peinture, de la dissonance en musique ou de l'incommensurabilité de la diagonale, il me semble que Leibniz s'efforce surtout de donner un sens à cette idée presque inimaginable. Notre monde, qui nous semble si imparfait et monstrueux, doit être, du point de vue de Dieu, le meilleur monde possible. Cet optimisme cosmique est contre-intuitif et même choquant à bien des égards, mais c'est aussi, nous l'avons vu, une conséquence nécessaire des principes sur lesquels Leibniz fonde son raisonnement, à savoir que le monde a été créé par un Dieu tout-puissant, omniscient et bénévolent. Et les auteurs qui développent rigoureusement les conséquences des principes qu'ils admettent, même lorsque je n'y adhère pas moi-même, me semblent plus intéressants que ceux qui nagent entre deux logiques, acceptant des prémices tout en renâclant face aux conclusions. Notez enfin que, s'il vous semble tout à fait clair que ce monde ne peut pas être le meilleur monde possible, vous pouvez alors considérer que le raisonnement de Leibniz donne au moins un excellent argument contre l'existence de Dieu. C'est toujours ça. Quelques livres pour aller plus loin. Jacques Bouvresse, Dans le labyrinthe, nécessité, contingence et liberté chez Leibniz, Collège de France, 2013. Je serais tenté de conseiller la monadologie, les essais de Théodicée ou le discours de métaphysique, mais ces textes sont tout de même assez difficiles à lire et il vaut peut-être mieux vous conseiller, pour introduire à Leibniz, ces cours des années 2009 et 2010 de Jacques Bouvresse au Collège de France. Ils sont disponibles gratuitement en format numérique sur Internet et pourront vous donner envie de lire les grands ouvrages susmentionnés. Bouvresse offre une présentation vive, instruite et passionnante de la pensée de Leibniz, mettant l'accent sur le labyrinthe logique et métaphysique entourant la notion cruciale chez lui de possibilité. Et il y a de quoi se perdre en effet. Ceux qui ont approché l'aporie de Diodore sauront de quoi je parle. Gottfried Leibniz, Sur l'origine radicale des choses, Hattier, 1984. C'est l'une des rares éditions de ce texte sur l'origine radicale des choses qui me semble parmi les plus claires et synthétiques de Leibniz. Au pire, vous ne perdrez qu'un quart d'heure de votre vie puisqu'il n'en faut pas davantage pour lire la petite dizaine de pages de cet opuscule. Notez que cette édition en contient un autre assez intéressant également, quoique plus théologique, intitulé « La cause de Dieu », qui présente lui aussi l'intérêt de résumer de nombreuses idées centrales de la philosophie de Leibniz, notamment sur la préscience, la volonté et la liberté. Gottfried Leibniz, Système nouveau de la nature et autres textes, Flammarion, collection GF, 1994. Ce sont surtout pour les autres textes que j'apprécie l'ouvrage. Il contient notamment ce dialogue qui fait l'analogie entre la permission du mal et l'irrationalité de la diagonale du carré. Le texte s'intitule « Dialogue effectif sur la liberté de l'homme et l'origine du mal » et de nombreuses autres curiosités leibnizienne.